Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.
Et bien voilà, c'est la dernière journée du MIPIM. Nous sommes le 15 mars, il est 11h20, on est en direct sur Radio Immo. Merci d'être avec nous. On est au Palais des Festivals de Cannes, devant la mer, on ne peut pas rêver mieux comme écran, pour parler aussi des activités immobilières, puisque la planète immobilière s'est réunie pendant ces 4 journées. Je vous le rappelle, plus de 100 pays se sont retrouvés ici pendant ces 4 jours. À Cannes, quelqu'un que je connais bien, qui est un grand monsieur de l'immobilier. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à conclure ce MIPIM avec lui, c'est Stéphane Imovitch. Bonjour Stéphane.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Très bien, un MIPIM qui a été assez dense, en dépit de ce qu'on pouvait imaginer. J'avais entendu que beaucoup pensaient qu'il y aurait peu de monde. Moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de monde, et puis surtout des rendez-vous très intéressants et très, très nourris.
Stéphane Imovitch, vous êtes le fondateur, patron d'Icori, une entreprise aujourd'hui qui compte dans le paysage immobilier français. Vous êtes également, tout récemment, élu à la tête de la FIAPSI, qui est une fédération internationale pour l'immobilier, qui a répondu à peu près, je crois, combien de pays dans le monde ? Je crois une centaine de pays, voire plus.
Oui, un peu plus.
Énorme. Et c'est, je suis ravi que vous ayez pris cette dimension. Vous êtes un spécialiste de l'immobilier résidentiel.
Oui.
Vous avez aussi inventé des métiers dans ce métier. Et donc, vous avez une longue carrière derrière vous. Si je vous demandais... Alors, bien évidemment, il n'a échappé à personne que le marché du résidentiel est vraiment chahuté depuis 2 ans. On est sur un marché cyclique. Peut-être, effectivement, pouvions-nous prévoir ce qui allait arriver ? En tout cas, une chose qu'on n'a pas pu prévoir, c'est le côté multifactoriel de cette crise, qui est inédite. Moi, je ne l'ai jamais vue, je pense que vous aussi non plus. Bien malin celui qui pourrait l'analyser dans ses contours. Si je vous demandais de faire une petite analyse comme ça, marché, un point de situation, là, au premier trimestre 2024, on se situerait où, aujourd'hui, sur le plan de l'immobilier résidentiel ?
En fait, l'immobilier résidentiel, c'est un marché qui est chahuté, mais... qui n'est pas plus chahuté que les autres secteurs, et j'ai presque envie de dire aujourd'hui presque un peu moins. Il s'avère que les facteurs, on les connaît tous, c'est la hausse des taux d'intérêt qui a eu un impact sur la hausse des rendements immobiliers, et de ce fait, ça amène un certain nombre d'acteurs à se repositionner, soit à la baisse sur les prix, soit en imaginant et en étant un peu plus créatif sur comment valoriser d'une manière ou d'une autre le résidentiel. Donc les crises, j'allais dire, ou les facteurs qui génèrent de la crise dans l'immobilier, et j'ai déjà connu de manière indirecte, pas sous cette même forme, mais dans les années 90-95, quand il y a eu la crise de l'immobilier, en tant qu'expert, j'ai vu quelles étaient les causes. On est dans une situation totalement différente de celle des années 90, parce qu'il y a un environnement juridique, immobilier, législatif, qui est totalement différent, donc ce qui est beaucoup plus rassurant pour notre sphère immobilière. En revanche, ces situations un peu particulières doivent générer de la créativité. Et je pense que le résidentiel est une classe d'actifs sur laquelle il y a véritablement beaucoup de créativité à apporter, et c'est ce qu'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui commencent à faire. Et donc, d'une part, il y a un réajustement des prix, parce que c'est indispensable. On en revient à des basiques, j'allais dire,
Ce réajustement est un cycle normal, finalement, de prix. Selon vous, en termes de valeur.
Oui, absolument. Ce réajustement est tout à fait normal, puisqu'on revient à des situations qui sont celles qu'on a connues antérieurement. Le fait qu'un immeuble en bloc vaille moins cher qu'un immeuble vendu appartement appartement, c'est normal. Et ça, on l'avait perdu tout simplement parce que les taux d'intérêt étant tellement bas, du coup, ça a eu un impact sur les taux de rendement immobilier. Et effectivement, le fait d'avoir un immeuble de logement qui rapporte 2,5% ou 3% alors que les taux d'intérêt étaient à 0%, eh ben, ça permet d'acheter à des niveaux de prix qui n'était pas forcément tout à fait raisonnable à un moment donné.
Est-ce que ça a généré... Donc vous dites clairement que ça a généré de la surcote. Bien qu'on sûr. A surcoté, surpayé finalement des actifs immobiliers. C'est un peu open bar, quoi. L'argent gratuit, et ça a été
L'argent gratuit, et de ce fait, ben, on se laisse emporter dans un élan de, d'acquisition à des prix qui se rapprochaient, pour le coup, des prix du détail, tout simplement.
Mais oui, bien évidemment. Ben, bon, je ne peux pas ne pas penser au prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, qui avait écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Le triomphe de la cupidité », qui fait qu'à un moment donné, la raison a été totalement anesthésié pendant une certaine période. Parce que vous et moi, on a quand même vu des deals très surprenants, quand même.
Oui, c'est vrai.
Ça a dû vous scotcher un petit peu. Et ce marché, finalement, qui est, finalement, est en train de se réguler, est-ce que je pourrais vous dire, alors j'exagère peut-être un peu, mais que ce qui est en train de se produire sur le marché de l'immobilier résidentiel est plutôt salutaire, puisque ce bouleversement sera propice à un changement durable et peut-être plus structurant, non ?
Alors, il est salutaire, certainement. Alors, il y a un point que je voudrais souligner qui est important, et qui, là, est un phénomène de fond et un facteur de fond, qui est la problématique énergétique. La problématique énergétique, aujourd'hui, est un vrai sujet. Qui n'est pas du tout conjoncturel, mais qui est un phénomène où tous, on doit réfléchir à cette problématique. Et de ce fait, beaucoup de patrimoine aujourd'hui ne répond pas à ces normes. Donc c'est un facteur complémentaire qui fait qu'il y a plus de différences selon la qualité des portefeuilles et selon la qualité des patrimoines, compte tenu de ce facteur. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'on est dans une situation d'assainissement ? Oui, on est d'une certaine manière dans une situation d'assainissement, parce qu'on en revient à des fondamentaux importants. De toute façon, l'immobilier résidentiel est un immobilier qu'il sera très difficile d'amener à des niveaux de rendement qui pourront convenir. Quand je parle de rendement, c'est le rendement immédiat, c'est-à-dire le rapport entre le loyer net et le prix d'acquisition. On aura toujours du mal à ramener ça à un niveau peut-être satisfaisant pour un certain nombre d'investisseurs. En revanche, on sait que sur le moyen et long terme, on a toujours des plus-values qui sont significatives. Donc ce que souvent l'IFEI appelle le taux de rendement global, c'est-à-dire le rapport entre le rendement immédiat plus la plus-value, il sera toujours positif.
Bien sûr.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'on est sur une classe d'actifs, et je pense que beaucoup d'acteurs et beaucoup d'investisseurs institutionnels s'en rendent compte, on est sur une classe d'actifs qui est résiliente
par nature. C'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, c'est un peu, enfin, j'allais dire, c'est acyclique ou contracyclique, c'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue temporel, c'est certainement, et c'est d'ailleurs toutes les statistiques corroborent, hein, on prend depuis les années 60, sur une projection sur les 50 prochaines 50 années depuis les années 60, c'est sans appel. Hein.
Bien sûr.
D'ailleurs, l'essor des SCPI, par exemple, ou des OPCI, des OPPCI, a été plébiscité grâce, effectivement, à cette résilience. Non, tout à l'heure, on faisait allusion en disant, c'est vrai, on ne retrouvera pas les mêmes taux de rendement. Effectivement, on ne retrouvera peut-être pas des taux de rentabilité à deux chiffres ou même à 9 ou 10%, mais sur une constance, même à 3, 4 ou 5%, ça reste extrêmement intéressant de toute façon.
Oui, absolument.
Donc ça veut dire finalement que on paye un peu le prix d'une certaine forme de spéculation, soyons clairs, mais il y a quand même des victimes collatérales dans tout ça. Les victimes collatérales, ce sont les utilisateurs, ce sont les locataires, ce sont ceux qui ont besoin de logement, parce qu'il y a quand même une dimension que vous revêtez aujourd'hui, Stéphane, et je sais que vous y êtes sensible, parce que humainement, vous êtes très orienté sur les autres, et je le sais depuis longtemps, et que vous partagez et vous donnez, je le dis, voilà, je sais que vous n'aimez pas qu'on le dise, mais vous partagez. Il y a des personnes qui sont en désespoir de logement. Je vous donne un exemple. C'était cet hiver, il y a 3000 enfants tous les soirs qui n'étaient pas logés, et qui étaient sur un hébergement d'urgence qui était complètement saturé. C'est intolérable. Donc, il y a aussi, et ce que je trouve plutôt salutaire aussi, c'est qu'on prenne conscience aussi que dans votre action, il y a aussi l'action du logement pour les autres. Et pour ce qui représente aujourd'hui, d'abord, un, le plus fort, qui est le plutôt d'effort le plus important, et deux, le premier marqueur social, c'est l'habitat, c'est le logement.
Mais vous avez parfaitement raison, et je pense que le logement abordable, au sens
bien sûr.
large et extrêmement important et fait vraiment partie. Et je ne crois pas qu'on puisse opposer un bailleur en logement avec du logement abordable.
Je suis tout à fait d'accord.
Et
d'ailleurs, on pourrait même dire qu'il vaut mieux, il faut impérativement qu'il y ait un modèle pérenne, économique, prospère pour le bailleur, pour lui permettre de remplir sa mission sociale et de loger les Français. Vous êtes d'accord là-dessus ? C'est pas antinomique.
Je suis parfaitement d'accord. Et ça fait la transition avec un sujet dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent, mais qui est un groupe de réflexion que nous avons mis en place, qui est présidé par Bernard Michel. Et ce groupe de réflexion qui s'appelle Vivere, c'est un groupe de réflexion où on essaie de faire des propositions au pouvoir public pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour proposer du logement abordable. C'est la clé, c'est vraiment la clé importante pour permettre une... D'abord, j'ai envie de dire un apaisement social du logement. Le logement est toujours considéré comme antagoniste entre, d'une part, des propriétaires et, d'autre part, des locataires. C'est quelque chose qu'il faut changer. Il faut changer dans les mentalités. Et pour changer dans les mentalités, il faut qu'il y ait un cadre juridique, un cadre qui permette aux uns et aux autres d'y trouver leur intérêt. Donc, nous, on a mis en place ce groupe de réflexion en se disant, on a fait venir des gens d'horizons très différents. On fait venir des gens du logement social, des gens qui proposent d'autres typologies de produits immobiliers autour du résidentiel, que ce soit des résidences-services ou autres. On fait venir aussi des investisseurs institutionnels. Bref, on essaie de constituer ce groupe pour se dire, à partir de là, à partir de notre situation, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, permettre le retour des investisseurs institutionnels, mais pas que des institutionnels. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 90% des bailleurs aujourd'hui qui sont des particuliers. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en termes de statut, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'apaisement pour permettre un retour des bailleurs au sens le plus large, que l'on soit sur de l'ancien, que l'on soit sur du neuf, on ne peut pas opposer l'ancien et le neuf. Et d'autant plus que l'ancien aujourd'hui a une nécessité de se rénover, d'être amené à des normes énergétiques qui soient satisfaisantes, qui vont permettre aussi de réduire les charges, etc., etc. Donc c'est tout ce travail que l'on essaie de faire aujourd'hui pour apporter quelque chose et donner des idées au pouvoir public et arrêter finalement de légiférer en permanence en disant on va opposer les uns aux autres parce que c'est pas une solution. Et je pense que c'est plutôt un repoussoir pour un certain nombre de propriétaires de s'imaginer un petit peu comme un exploiteur entre guillemets du locataire. Non. Alors, les intérêts sont communs.
Vous avez parfaitement décrit la situation puisque finalement les risques massifs de désinvestissement liés à des contraintes réglementaires. Je songe par exemple au 1er janvier 2025 où les étiquettes G vont être retirées du marché si les propriétaires n'ont pas fait les travaux, en sachant que la sanction est punitive pour le propriétaire, puisque le locataire est en droit d'exiger par voie légale les travaux. Et ça va même plus loin. Il est en droit d'exiger d'être relogé aux frais de son bailleur actuel. C'est une situation dans laquelle on se dit, pour le propriétaire, c'est déjà une peine grave. Mmh. Mais il y a une double peine, qui est celui du socle fiscal, dans lequel il n'a absolument plus aucun intérêt à louer, ne serait-ce que, par exemple, en bail classique. Alors, effectivement, le législateur essaye d'aligner la fiscalité pour qu'il y ait une équité fiscale, parce que ça devenait quand même absolument fou. Je mets au défi quelqu'un, n'importe qui, de trouver une location vide de moins de 30 mètres carrés dans Paris, c'est juste impossible. Et la deuxième chose, vous avez parlé de rénovation énergétique, où on estime ce marché à plus de 200 milliards d'euros sur les 20 prochaines années, c'est absolument colossal. On voit que l'État a fixé des rénovations d'ampleur absolument phénoménales, et au même moment, on est sur des systèmes qui sont cloisonnés. On voit que Bruno Le Maire a rétro-pédalé, puisqu'il a fini par revenir en arrière pour réinjecter 1 milliard d'euros sur MaPrimeRénov'. Et l'autre sujet, bien évidemment, est celui du statut du bailleur, notamment le statut du bailleur privé que vous avez plébiscité, que vous souhaitez mettre en œuvre et qui ne coûte pas tant que ça à l'État. Bref, vous avez entendu Guillaume Kasbarian cette semaine, vous avez lu les 10 mesures qu'il a promues. Je vais être très cash avec vous. Est-ce qu'on peut encore, Stéphane Imovitch, président de la FIAPSI, patron d'Hickory, espérer quelque chose de cet exécutif qui n'a cessé, depuis les 4 gouvernements et 5 ministres du logement, de rompre finalement l'équilibre fragile qui régnait dans l'industrie immobilière.
On a trop tendance à penser que le bailleur privé est un rentier.
Oui. Mais pourquoi on a ce genre de pensée, Stéphane ? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, tiens, c'est des salauds de capitalistes qui s'enrichissent sur le logement, c'est de la rente de situation ? Oui, c'est une façon de ne pas travailler, de gagner de l'argent. Non, mais vraiment, il y a une mythologie absolument délétère.
Mais je suis mille fois d'accord. Et je pense qu'il faut sortir de ce mode de pensée. Je rappelle que sur les 90% de bailleurs privés existants, en moyenne, ils sont détenteurs d'un logement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très souvent, les gens achètent un logement en locatif parce que ça leur permet de compléter leur retraite. Nous disions avec Bernard Michel qu'il était indispensable de rapprocher la problématique logement et la problématique bailleur de la problématique des retraites. Parce que effectivement, si les gens font ça, c'est parce qu'ils se disent la retraite par répartition risque vraisemblablement de ne pas nous apporter un niveau de vie suffisant. Donc, nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut impérativement sortir de ce schéma en considérant qu'un bailleur est un rentier. Il faut considérer qu'un bailleur, c'est un acteur comme les autres. C'est un acteur économique.
Absolument.
Qui a un certain nombre d'obligations. Et on peut très bien imaginer qu'un bailleur, moyennant un statut classique, moyennant, permettant éventuellement un amortissement ou toute autre solution. Moi, je ne suis pas législateur, mais je suis l'homme de la rue. Et l'homme de la rue, il a du bon sens. Et donc, il faut absolument permettre et conditionner un certain nombre d'avantages avec derrière des obligations. Ça peut être des obligations en termes de niveau locatif, en termes de durée de bail, de façon à assurer une pérennité au locataire et lui permettre de vivre dans des conditions qui sont acceptables. On ne peut pas... Vous parliez du locatif. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui sur le plan locatif ? On arrive à des dérives absolument effarantes. Chercher un appartement dans une grande ville. Moi, j'ai regardé à titre personnel pour me louer un appartement. Impossible de trouver un appartement à moins de 60 ou 70 euros à Paris aujourd'hui.
Ah oui.
Parce que...
Du mètre carré.
Du mètre carré par mois. Ouais. Tout simplement parce que les gens préfèrent faire des baux civils, qui est un moyen de sortir de l'encadrement de loyer, de sortir de toutes les contraintes que l'on connaît. Donc, ramenons un flux, un peu plus de liberté dans ce mode de fonctionnement entre bailleurs et locataires. En revanche, si on ramène un peu plus de liberté, il faut derrière mettre des cadres pour permettre à ce que les uns et les autres puissent y trouver leur compte. Donc, je pense qu'il y a toute cette réflexion et il faut arrêter de penser qu'un bailleur privé est un horrible exploiteur.
Stéphane, vous devez être en colère alors, avec l'exécutif actuel. Quand vous voyez ces quatre gouvernements, les cinq ministres, à un moment donné, vous dites il y a un vrai sujet.
Mais c'est tout simplement un manque de courage politique,
bien sûr.
Ni plus ni moins. Essayons de... Enfin, je sais pas, il y a mille propositions qu'on pourrait imaginer.
Il faudra une alternance de toute façon politique pour y arriver. Mais c'est normal que vous espériez encore, parce qu'effectivement, ça ne peut avoir que du sens et il faut rester positif. Néanmoins, vous, Hickory, vous performez dans un contexte compliqué. Pourquoi vous êtes bon dans votre domaine ? Parce que vous avez une culture de l'expertise, vous avez une culture du métier. Elle est presque intemporelle, elle est presque contracyclique. C'est-à-dire qu'en fait, n'y a-t-il pas aussi dans cette crise le fait que, il faut aussi l'assumer, qu'il y a eu, par effet d'aubaine ou effet d'embellie, des acteurs nouveaux qui sont arrivés dans l'immobilier en disant « il y a bon, c'est super ». On va gagner des sous, ça va être très rapide. Et puis en même temps, les très bons, ceux que vous incarnez sur le long terme, bah finalement, seront toujours là, quoi.
Je pense que quand on fait un métier, il faut essayer de bien le faire.
Les météores, vous en voyez, voilà, ils arrivent et puis ils disparaissent aussi vite.
Mais évidemment, Alors, c'est pas pour autant que la difficulté de marché, elle existe, hein, on peut pas le dire. Nous, on a eu une année 23 qui a été beaucoup plus difficile que la précédente, mais pour des bonnes raisons, tout simplement, qui sont celles qu'on connaît. En revanche, c'est vrai qu'on se doit, et surtout quand on est prestataire de services comme nous, on se doit d'être une force de proposition. Se doit d'être créatif. Donc c'est ce qu'on s'efforce de faire. Et par ailleurs, nous, on est des vrais spécialistes dans un domaine qui est le domaine résidentiel. Il y a peu de sociétés, je parlais avec un camarade là qui est pas loin d'ici, et il me disait, quels sont tes concurrents ? Je lui dis, bah, finalement, des concurrents, bien sûr, on en a. Mais ce sont des concurrents qui interviennent dans un domaine, mais qui n'est pas leur domaine principal.
Bien sûr.
Nous, on est focalisé sur le résidentiel. Donc toute la matière immobilière chez nous, elle tourne autour de ça. Et le deuxième point, c'est qu'à l'intérieur de cette matière résidentielle, on a des domaines qui sont différents, qui se complètent, qui peuvent être totalement indépendants, mais qui se complètent. Donc ça fait de nous un vrai spécialiste.
Merci beaucoup Stéphane. J'ai toujours tant de plaisir à partager ce moment avec vous.
Merci à vous.
Je gage, les amis, qu'on va se revoir très 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 vite. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2024 ?
Eh bien, on va se souhaiter de continuer à être créatif. On va essayer d'apporter un certain nombre de nouveaux dossiers à nos clients et de faire preuve justement un peu de cette créativité pour apporter des choses différentes et puis pour répondre aux besoins, tout simplement.
Merci beaucoup, Stéphane.
Merci
à vous. Stéphane Immobilis, président de la FIAPSI et président également d'Icori, fondateur d'Icori. Merci. Il est pratiquement 11h42. On est toujours en direct ici au MIPIM pour cette dernière journée. On se retrouve dans quelques instants.
Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.